Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité avec vous et avec aujourd'hui Virginie Leguet. Bonjour Virginie.
Bonjour, bonjour.
Chef adjoint au service politique de Paris Match. Paris Match avec un scoop aujourd'hui, une interview pour le coup, là c'est vraiment exclusif et mondialement exclusif, l'interview de Nafissa Touré Diallo.
Oui, 9 ans après l'affaire.
9 ans après l'affaire, c'est un très très beau coup où elle raconte que sa vie est un enfer et que
qu'elle a été privée de justice,
absolument. Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour.
Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Et Éric Verhaeghe, qui est avec nous à distance, bonjour. Vous êtes bonjour, entrepreneur Valérie. Et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Je précise que vous êtes à distance, puisque parfois nos auditeurs nous disent, vous n'avez pas le masque et tout. Je précise qu'on a les deux fenêtres ouvertes, que nous sommes à distance, que nous désinfectons le studio et que nous avons un invité.
Et que nous avons enlevé nos masques
oui.
Il y a deux minutes,
en rentrant dans la pièce. Le conseil scientifique est inquiet, le gouvernement aura des mesures difficiles à prendre. On se demande ce que seront ces mesures difficiles à prendre. Une épidémie qui repart, un climat anxiogène. Le Tour de France est-il macho et polluant, comme le dit le maire de Lyon? On va en parler, mais on va parler plus généralement des maires écolos qui ont des positions pour le moins dogmatiques, en tout cas assez étranges. Mais si vous voulez les défendre ou si vous comprenez leurs décisions, appelez-nous 0826 300 300. Petit tour de table avec vous. Virginie, un coup de cœur.
Oui, une fois n'est pas coutume pour un personnage qu'en général je n'aime pas beaucoup, mais qui est Bernard Tapie. Mais j'ai beaucoup apprécié son intervention lundi, je crois, devant la conférence des avocats du barreau oui. de Paris.
Est-ce que vous voulez qu'on l'écoute?
On a cet
extrait.
Oui.
Contrairement à ce qu'on dit, le moral, etc., vos cellules cancéreuses s'en foutent. Elles ont un ennemi, c'est votre énergie. Car c'est l'énergie qui donne la puissance à votre système immunitaire. Et comment on trouve l'énergie? En bougeant, en se remuant. Et si vous êtes au lit, du matin au soir, en vous disant « je ne peux pas me lever », vous êtes mort.
Voilà. Intervention extrêmement émouvante d'un Bernard
surtout,
Tapie.
Non seulement courageuse, parce qu'il se bat depuis des années contre un cancer de l'estomac et de l'œsophage. Non seulement courageuse, mais j'ai eu l'occasion de l'observer, de le vivre dans mon entourage très proche, parfaitement exact. Il arrive assez fréquemment que les pronostics de vie, parce que malgré tout c'est de ça dont il s'agit, des médecins soient totalement déjoués par l'énergie vitale, la force et l'engagement du malade face à la maladie, et ça peut lui permettre de gagner beaucoup de temps. Et j'ai beaucoup aimé, alors il a dit parfois des choses vraiment que j'ai combattues, que j'ai trouvées très absurdes, mais ça j'ai trouvé ça extrêmement juste, extrêmement courageux et extrêmement encourageant pour ceux qui sont eux-mêmes frappés de cette maladie et qui se disent « Ah ben c'est foutu, je peux rien faire ». Si c'est pas vrai, on peut faire, on peut se battre et on peut gagner beaucoup de temps parfois.
Je pense que c'est quelque chose qui vous parle, Éric Verhaeghe.
Malheureusement, oui.
Oui. Dans le sens où vous dites que effectivement tout ce qui est puisque vous êtes également vous avez lancé un site qui s'appelle Cosmico et qui vend justement beaucoup l'hygiène de vie. Et,
oui. Je pense qu'en revanche, ce que dit Bernard Tapie, et je rebondirai sur les propos qu'on a tenu la semaine dernière sur votre antenne oui. sur ce sujet avec Georges Fenech.
Oui.
Moi, je crois que il faut quand même faire confiance quand on a un cancer à la médecine allopathique, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être combattues par la seule énergie.
Hein. Oui, oui.
Et donc, je pense en effet qu'il est important que les gens se battent contre le cancer.
C'est quoi,
moi, j'ai
ah,
très
oui.
proche
ah, bah, oui, bien
parvenu
sûr.
À sortir oui. d'une unité de soins palliatifs parce qu'elle avait l'énergie pour oui. sortir d'une unité de soins palliatifs en étant vivante. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais il faut avoir conscience que dans tous les cas, le cancer, alors Bernard Tapie a qui plus est des cancers qui sont des mauvais cancers, dont le pronostic de survie est généralement assez faible. Et il faut quand même faire confiance aux médicaments et ne pas se dire que l'énergie va permettre de lutter.
Pardonnez-moi, mais c'était pas du tout mon propos. Propos. Il est bien évidemment acquis que les protocoles qui sont proposés par les médecins sont des protocoles qui sont indispensables au traitement du dit cancer. Pour autant, ça ne suffit pas.
Et puis, ne pas culpabiliser des gens qui se sentent faibles, qui se disent merde, moi, j'ai pas l'énergie, etc. Je pense qu'il faut justement dire que le mental est fort et ne pas se laisser décourager c'est pas toujours facile.
C'était juste mon angle.
Voilà.
Bah, il dit qu'il ne faut pas baisser les bras.
Il ne faut pas baisser les bras
face à l'adversité dans toutes les circonstances. Il a raison et en effet, se présenter combatif face à une maladie qui vous met par terre ou la laisser gagner ou se battre, il vaut mieux se battre.
Oui, absolument. Alors Eric, tiens, allez-y, vous avez un coup de cœur pour le pape. Je sens une petite ironie, je ne sais pas pourquoi. Pas du tout.
Le pape a donné une longue interview qui est publiée dans un livre et il est interrogé sur la morale chrétienne et notamment sur le rapport du christianisme avec la gastronomie et avec les plaisirs de la chair, comme on dit. Et il explique que ce sont des plaisirs d'origine divine et que donc ces plaisirs ne doivent pas être combattus. Et je trouve que c'est une évolution importante. Autant on peut voir que, on va en parler tout à l'heure, il existe aujourd'hui des forces rigoristes dans la société, et notamment ceux que je considère être les héritiers des catholiques de gauche que sont les écologistes, qui nous expliquent que se faire plaisir, c'est mal, et qu'il faut restreindre de plus en plus les jouissances de la vie. Je trouve à la fois sympathique et en même temps révélateur que ce soit le moment où l'Église catholique fait un vrai pas, puisque vous savez qu'à une époque, on considérait que tous ces plaisirs étaient des péchés véniels et qu'ils devaient être combattus. Je trouve cette évolution théologique tout à fait intéressante et significative.
Reconnaître que les plaisirs de la chair, enfin je sais pas si vous avez dit ça comme ça, enfin bref, les rapports sexuels sont d'ordre divin, pourquoi pas, mais moi la question qui reste posée et que
le plaisir,
c'est comment par exemple l'Église se situe par rapport à la contraception quand on veut choisir le moment de ses grossesses, et quand on est une femme, et l'Église jusqu'à présent a toujours dit que la contraception
quand on est un homme, la contraception n'est pas qu'une affaire de femme.
Vous avez tout à fait raison, mais en général, c'est reconnaissez-le même encore en 2020, en général, c'est la femme qui s'en occupe.
Oui, majoritairement. Mais c'est vrai
jamais oublier dans le cadre de l'Église que son message a vocation à être universel. On peut ne pas être d'accord sur le continent européen compte tenu d'un ensemble d'avancées, on va dire sociales ou sociétales, mais l'Église, elle ne parle pas qu'aux Européens, elle parle aux Africains, elle parle aux Indiens.
La contraception, ça s'adresse au monde entier.
Et oui, mais peut-être que dans leur conception de l'humanité, la vision est un peu plus globale. Voilà.
Jean-Luc Touly, c'est un coup de gueule attendu
comme
de votre part.
Comme d'habitude, d'ailleurs, c'est Gérard. Mais je suis pour le plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. mon coup de gueule, c'est la tentative de rachat de Suez par Veolia. Alors, j'ai travaillé chez Veolia, donc je connais bien le problème. Et je suis dans une communauté d'agglomération qui est gérée par Suez de manière absolument scandaleuse. Donc, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Et ce n'est pas l'histoire des salariés qui risquent d'être licenciés du fait de la... Ce n'est pas cet aspect-là qui m'intéresse particulièrement. C'est le fait qu'aujourd'hui, les collectivités vont ne plus avoir le choix. Ils avaient déjà peu de choix du fait qu'il n'y avait que deux mastodontes en France et au niveau international. Mais en France, ils dirigent près de 60% des communes. Qui n'auront plus affaire qu'à une seule entreprise.
Un monopole.
Alors, et de plus, au niveau de la Commission européenne, que j'ai saisie comme l'autorité de la concurrence, pour justement abus de position dominante, ces tentatives ont déjà été faites en 2010, en 2012, et avaient été arrêtées par la Commission européenne, justement, pour atteinte à la concurrence et pour abus de position dominante. Donc tout ça est assez navrant qu'aujourd'hui, on est pour une concurrence effrénée, transparente et tout ce qu'on veut. Et là, on va avoir, pour un service essentiel comme l'eau, comme les déchets, comme le chauffage urbain, une seule entreprise. Donc évidemment, pour les usagers, quand on dit la concurrence, ça fait baisser le prix. Bah, vous imaginez que l'inverse, ça va faire augmenter.
Ouais, enfin c'est pas encore fait.
Non, mais Suez, je sais que Suez, ce matin, le conseil d'administration a suivi la direction générale pour dire non à la proposition. Mais comme c'est Engie qui veut vendre sa participation... et puis, alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Veolia, assez malin, évidemment, propose de vendre, si l'opération marche, sa branche eau à un fonds de pension plutôt ami. Hein. Le problème, c'est que ce fonds de pension va se substituer au contrat de cette société qui a des contrats depuis, au niveau d'Île-de-France, une centaine d'années. Pour Lyon, ça fait depuis 1853. Et ça va se faire naturellement, sans appel à concurrence. Tout ça est assez étrange que le gouvernement, et notamment son Premier ministre, voit ça d'un bon œil.
Comment expliquez-vous ce revirement de position ?
Est-ce qu'il y a des lobbies tellement puissants qui font que... Je sais pas, parce que c'est quand même très très étonnant. Et Suez a aussi des lobbies très puissants. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour les usagers, et en France en particulier, c'est une très mauvaise nouvelle si l'opération se fait.
Allez, on va continuer notre tour de table de ce petit... de vos coups de cœur et coups de gueule avec celui d'Alexandre Malafaille dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous allons revenir sur les décisions du Conseil scientifique, ou plutôt les avis du Conseil scientifique qui se dit inquiet, et puis ces mystérieuses mesures qui vont être difficiles à prendre, qui ont été évoquées hier. Le Tour de France est-il macho ? On va parler des maires écolos. Avant de vous donner la parole, Alexandre Malafaille, vous avez peut-être entendu ce matin sur Sud Radio le témoignage de cette jeune femme à Montpellier, dont la maman s'est fait arracher son chien, un petit spitz, dans la rue. J'ai lu une histoire semblable hier sur Facebook d'un petit chihuahua dans le 18e arrondissement qui a été enlevé par des individus en voiture. Donc, si vous avez des chiens, faites attention. Des petits chiens, chihuahua, spitz, bichon, ces chiens-là ont une valeur marchande et visiblement, bien des salopards, j'ai pas d'autres mots, n'hésitent pas à les arracher pour les revendre. Celle de Montpellier, la jeune femme de Montpellier, l'a retrouvée sur un marché aux puces. Je trouve qu'on vit une sale époque. Voilà.
Je confirme.
Voilà. Alexandre, sans aucun rapport et sans transition.
Non, un coup de cœur, en fait, sur les juges du Conseil constitutionnel, pardon, voilà, qui ont décidé que la fameuse procédure qui consistait à d'abord être obligé de payer pour contester une amende de stationnement, cette procédure n'était plus de mise, et que désormais, lorsqu'on est victime, si je puis dire, ou en tout cas qu'on est verbalisé parce qu'on n'a pas payé son stationnement, ou parce que le verbalisateur estime qu'on n'a pas payé comme il le fallait, eh bien, on peut contester ça sans avoir à s'acquitter d'abord de l'amende forfaitaire. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça, il y a eu beaucoup de dérives ces dernières années, notamment depuis qu'on a privatisé dans les grandes villes, notamment le stationnement à des boîtes privées qui font du chiffre et qui font du chiffre de manière un peu systématique et très abusive. Moi, j'ai 2-3 expériences en l'occurrence où on se prend une amende de 50 euros parce qu'on a 2 minutes de stationnement en plus. Ou là récemment, j'ai une voiture électrique, j'ai pris 2 amendes coup sur coup. Alors normalement, je dois me garer gratuitement. J'ai pris 2 amendes. Voilà, je les ai contestées. L'une a été retoquée et l'autre, on m'a dit non, vous devez payer. Maintenant, si vous voulez vraiment contester, il faut vraiment payer, aller au bout et vous verrez après si on vous condamne.
Donc là, c'est en cas de contestation, on ne doit plus payer, mais
on peut contester. Et puis ce coup de cœur que j'adresse au juge du Conseil constitutionnel, en fait, c'est un coup de cœur que j'adresse au juge en général, parce que je trouve que dans le contexte actuel, quelque part, il constitue le dernier rempart pour nos libertés. On voit bien à quel point nos libertés sont quand même piétinées ou en tout cas menacées. La période du confinement nous en a laissé quelques traces. Le port du masque obligatoire partout, en toutes circonstances, laisse question. Peut-être demain, les mesures dont on parlera, on va peut-être nous obliger à ne pas même plus nous réunir chez nous en petit comité. Voilà, les juges sont là et à un moment donné, ils exercent un droit de rempart qui est à mon avis nécessaire pour qu'on évite de tomber dans ce qu'on évoquait tout à l'heure, la dictature sanitaire.
C'est une façon de voir les choses. Ouais.
Voilà.
Parce que on leur reproche beaucoup de choses aux juges également, en particulier, enfin sur la justice en particulier, sur la non-exécution des peines, sur le juge d'application qui défait ce qui a été fait. Donc,
c'est vrai, mais au nom du droit de la liberté, toujours.
Ouais.
Non, ça me fait penser qu'il y a quelques années, enfin il n'y a pas très longtemps, le gouvernement actuel avait pris une disposition pour que les personnes qui allaient au prud'homme pour faire valoir leurs droits ou pour contester un licenciement devaient s'acquitter d'une somme de 35 euros. Donc c'est un peu le même genre, c'est évidemment pour décourager,
c'est une bonne mesure. Un mot aussi sur le séminaire gouvernemental sur la sécurité, on a attendu, nous, toute l'après-midi, de voir ce qu'il en sortirait, et il n'en est rien sorti, visiblement, non ?
Vous avez vu passer,
Éric Vérague ?
Je crois une espèce de, à nouveau, d'utilisation de la querelle Dupont-Moretti contre Darmanin pour faire spectacle et pour occuper les esprits, mais on sait très bien que la sécurité, c'est l'angle mort de la politique de Macron et qu'il n'est pas sécuritaire. Et sur le fond, je pense que c'est pas son sujet de rétablir l'ordre dans les quartiers, mais vous aviez raison de le dire tout à l'heure sur cette affaire de chiens volés. Je pense qu'il y a partout un sentiment d'une montée très rapide de l'insécurité, spécialement dans les quartiers difficiles. Je pense que les gens du quartier de la Goutte d'Or à Paris sont exaspérés par ce qui se passe. Et je pense que tout le monde constate que le gouvernement est sans réponse face à ces questions, à part faire du spectacle.
Ouais. Il y a un vrai sujet, l'insécurité, c'est très vaste. Qu'est-ce qu'on met dedans? Mais je pense qu'il faut y rajouter bien sûr les incivilités. Et là, quand on rajoute les incivilités, on se rend compte à quel point c'est devenu extrêmement pénible de vivre au quotidien, notamment dans les grandes villes, mais pas que. D'ailleurs, les cambriolages sont une réalité, ils ne sont pas en diminution. Voilà, les petites agressions du quotidien, les vols à l'arraché, tout ça continue. Il suffit de voir ce qui se passe dans les métros aujourd'hui encore.
Les déchets ménagers aussi.
Absolument. Donc c'est tout ça qui contribue à un climat, à une ambiance qui est délétère de ce point de vue-là. Et l'approche de Dupond-Moretti, qui effectivement qui est un avocat, qui est lui défenseur des libertés, est intéressante du point de vue du fait qu'il ne veut pas qu'on utilise des termes à mauvais escient, mais en même temps, il faut pas nier la réalité. Ce sentiment d'insécurité, il n'est pas simplement parce que c'est dans l'air, c'est une réalité qu'on a tous autour de nous des gens qui ont été agressés, qui ont eu des problèmes.
Si je peux rajouter une petite chose qui, moi, personnellement, m'exaspère, vous parliez tout à l'heure de la bonne utilisation des mots. Moi, il me semble que sous le terme incivilité se cache une quantité de choses extrêmement différentes qui peut passer de la chose la plus véniale à la chose quasiment la plus grave, et que c'est une façon bien pratique de ranger sous une appellation finalement que personne light. Ne peut vraiment contester, voilà, exactement, très light, des choses qui mériteraient peut-être d'autres classements et qui feraient peut-être évoluer les chiffres.
Oui, absolument. Le Conseil scientifique est inquiet, le gouvernement donc aura des mesures difficiles à prendre, l'épidémie repart, c'est un nouveau Conseil de défense qui est organisé demain, et Jean-François Delfraissy estime, donc qui est le président du Conseil scientifique, estime que le gouvernement devrait prendre des décisions difficiles d'ici 8 à 10 jours face à ce niveau inquiétant de l'épidémie du Covid.
Alors pourquoi attendre 8 à 10 jours d'ailleurs?
Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas bien compris pourquoi on annonce, attention, des mesures difficiles.
En tout cas, dans les EHPAD,
Jean-Luc Touly.
J'en connais une, c'est ma mère qui y est. Depuis 3 jours, elles sont confinées dans leur chambre. C'est-à-dire que là, c'est une véritable prison, plus de contact avec personne. On déjeune sur place. Enfin, voilà, tous les repas sont pris, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. Donc,
vous pouvez aller la voir ?
Non.
Ils ont fermé les EHPAD.
Alors, j'ai la chance qu'elle donne sur une rue, donc je lui fais signe de loin.
Ah oui, mais vous ne pouvez plus aller la voir dans sa chambre.
Ah non, c'était totalement interdit pour tout le monde. Tout ça parce qu'il y aurait deux personnes, deux salariés qui auraient été testés positifs. Donc, par prévention, on cale feutre. Et donc, si vous voulez, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de lien. Et donc, ces personnes-là vont mourir beaucoup plus vite, parce que là, il y a un ennui total.
On l'évoquait tout à l'heure. Avant qu'on parle du fond, peut-être, de l'épidémie en elle-même, c'est la communication du gouvernement, la communication politique. C'est-à-dire, attention, on va faire quelque chose. Mais effectivement, vous avez raison, pourquoi attendre 8 jours?
D'autant Alexandre que M. Delfraissy, qu'on entend trop par ailleurs, j'y reviendrai, dit qu'il faudrait prendre des décisions tout de suite, parce que le temps que les décisions soient prises et qu'elles soient mises en œuvre, il y a un effet d'inertie 3 semaines, compte tenu du fait que il y a tout le processus de circulation du virus et de contamination éventuelle. Voilà. Mais pour le reste, la communication gouvernementale depuis le départ sur cette épidémie, elle est très chaotique. On a eu tout et son contraire. La question des masques en est une illustration parfaite. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que je pense qu'à un moment donné, que la communication politique en temps de crise soit compliquée, c'est une réalité. On ne peut pas non plus les accabler, systématiquement et tout le temps. À un moment donné, ils pilotent un truc qui est totalement nouveau. En revanche, je pense que le conseil scientifique ferait mieux de fermer sa gueule. Très clair.
C'est dit.
Je pense que tous ces gens-là, tous ces médecins qui font partie du conseil, après que les Corinne Lacombe et autres veulent aller se faire payer par les labos et aller faire
Karine
des commentaires sur les
blogs. Lacombe.
Très bien, vous voyez, elle ne m'a pas marqué. Sauf que
ce
qui me marque,
vous,
ce sont ses interventions.
Elle
se fait payer par les labos, elle défend des positions par ailleurs.
Mais ça veut dire quoi se faire payer par les labos?
Non, attendez,
ça veut dire quoi, faire payer
par les 40 000 euros l'année dernière
par les labos? Mais dans quel
écoutez, à un moment donné,
dans
on peut
quel
pas
cas
être jugé parti.
Non, mais je vais pas défendre les labos, mais
ce que
je veux dire, c'est
partie.
Que quand on dit ils sont payés par les labos, il faut savoir que, écoutez-moi, que par exemple en matière d'Alzheimer, les gens qui travaillent sur la maladie, quand on travaille en épidémiologie, on a besoin d'être en contact avec ces laboratoires.
N'est pas là. Quand on est payé par Gilead et qu'on s'oppose au professeur Raoult, c'est forcément suspicieux.
Oui, mais Gilead, ça marche pas non plus.
Non, mais attendez, il faut à un moment donné choisir son camp, et quand on est lié à une partie,
le professeur Raoult lui était payé par Sanofi.
Écoutez, je crois que Raoult, et quand on voit Sanofi vend un médicament à 50 euros, Gilead propose un médicament à 2 300 dollars.
Qu'il était prêt à mettre gratuitement à disposition.
Non, il a l'Union européenne a passé une commande de 60 millions. Pardon, mais excusez-moi, c'est pas gratuit 60 millions.
Mais qui était voilà. Non, qui était voilà. Ils ont pas passé une commande d'un médicament qui est pas efficace.
Mais moi ce que je dis que c'est les médecins qui sont payés, qui écument les plateaux télé, on se demande ce qu'ils font à côté, me pose un problème.
Vous pouvez pas jeter le discrédit comme ça sur les médecins.
Je le jette parce que ils ont dit trop de conneries pendant cette crise et quand
aujourd'hui des médecins
et quand j'entends le professeur Delfrécy qui passe son temps sur maintenant à effectivement à semer le chaud et le froid, à donner effectivement son avis. Je pense qu'il devrait donner son avis dans le cercle restreint du comité scientifique aux gens qui nous gouvernent, oui, qui après en font un usage politique, mais qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas se mettre entre les deux et passer leur temps à semer la peur. Parce que c'est vrai, sème la peur, crée le doute dans l'esprit des Français. On est en train d'installer le principe de peur sociale de l'autre.
Contre deux femmes, visiblement. Alors,
On est en train d'installer le principe de peur sociale de l'autre et vous verrez qu'il va en rester des traces extrêmement profondes pendant des années et des années.
Alors, on se retrouve et on continue ce débat auquel vous êtes évidemment invité à participer. 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Le sujet est hautement inflammable. Nous parlons évidemment de l'hydroxychloroquine. Le conseil scientifique qui annonce des mesures difficiles, qui vont être difficiles à prendre vers des reconfinements. Est-ce qu'il faut des mesures plus contraignantes? Alexandre Malafaï nous disait que ces mesures, en tout cas, toutes celles qui ont été prises jusqu'à maintenant et ce climat laisserait des traces. Mais tiens, on va prendre notre ami Éric Vérague, qui est à distance, donc plus compliqué, je le signale pour nos auditeurs.
Oui. Éric. Alors, en fait, moi, je suis partagé sur cette affaire parce que si dans un mois, on s'apercevait que la mortalité repassait à la hausse ou repartait à la hausse fortement, et si le gouvernement n'avait pas réagi avant, on lui tiendrait grief de son inaction. Donc, je comprends aujourd'hui que les pouvoirs publics se disent ils ne nous pardonneront rien si on n'applique pas le principe de précaution. Ce faisant, je crois qu'il y a aujourd'hui, en tout cas je vais le présenter comme ça, une part de l'opinion publique qui est assez importante et qui considère, qui est convaincue, qui est vraiment intimement persuadée que le gouvernement aujourd'hui utilise la peur du coronavirus pour faire des expérimentations sociales, c'est-à-dire voir jusqu'où on peut aller dans la restriction des libertés dans une société démocratique sans que les gens ne réagissent.
Mais à quelle fin ? D'installer une dictature ?
Ça serait contre-productif pour lui qui voudrait qu'il y ait une reprise économique massive avec des gens qui retournent travailler. On ne peut pas utiliser la peur sociale.
Moi, j'aimerais que vous poursuiviez votre pensée, c'est-à-dire le gouvernement veut restreindre à terme nos libertés et fait des tests.
Il peut y avoir... moi, je me fais l'écho de ce que je vois partout sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que c'est une erreur.
Vous êtes quelqu'un d'intelligent, Éric.
Comment ?
Mais à quelle fin ?
Non, je suis convaincu.
Il y a beaucoup de folie qui circule sur les réseaux sociaux.
Mais à quelle fin le gouvernement voudrait réduire nos libertés ? Je connais un peu, je vous pose
déjà
la question naïvement.
Le principe de l'État, Valérie, c'est de restreindre les libertés. C'est malheureusement, l'histoire le montre, tout État est fondé sur une restriction des libertés.
Ou une protection des libertés.
Une régulation. Alors,
est-ce que la protection est le faux-nez de la restriction ? Moi, je pense en effet qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système où la protection est mise en avant pour étouffer. On le voit notamment dans le domaine de la protection sociale. C'est un libéral qui parle, je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, il est évident que le gouvernement a très probablement peur des réactions sociales qui vont s'enchaîner, de ce climat explosif, de ce climat d'insécurité qui existe. On sent bien que la société française est tendue. Et je note qu'en Allemagne, nous n'avons pas les mêmes mesures, on ne voit pas les mêmes mesures aussi coercitives en Allemagne. On ne les voit pas aux Pays-Bas, on ne les voit pas au Danemark. Donc c'est une spécificité des pays d'Europe du Sud aujourd'hui que, d'une façon ou d'une autre, d'instaurer un climat où les libertés sont fortement restreintes. Moi, je suis convaincu qu'en France, il y a une vraie peur aujourd'hui du pouvoir vis-à-vis d'une réaction populaire et que donc, finalement, c'est plutôt accommodant de pouvoir justifier de mesures très attentatoires aux libertés.
Mais lesquelles, par exemple ? Prenez des exemples concrets. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour restreindre nos libertés ?
Alors, par exemple, ça n'est pas encore obligatoire, ça l'est pratiquement en Allemagne, pour le coup, c'est l'obligation de se déclarer quand on va dans un café. Aujourd'hui, il y a déjà des cahiers de rappel.
Ce n'est pas le cas en France.
Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire. Donc, mais rien ne vous dit que dans les mesures très difficiles, on ne vous explique pas que ben, quand vous allez au café, maintenant, vous devez dire qui vous êtes, votre numéro de téléphone, montrer éventuellement vos papiers d'identité et dire avec qui vous allez au café. Si vous ne trouvez pas que c'est une mesure...
Mais
ce n'est
pas le cas. On peut toujours tout imaginer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, aujourd'hui, lorsque vous avez un soupçon de cluster, vous avez quand même une remontée de avec qui vous étiez, etc. Et
les cas contacts, oui, bien sûr.
Vous avez aujourd'hui une loi qui a été passée, qui a été adoptée cet été, sur l'état d'urgence sanitaire, qui autorise les agents de la Sécurité sociale, pour aller vite, ou les agents des ARS, à vérifier ce qu'il y a dans votre vie privée. C'est un glissement qui est attentatoire.
À vérifier qui vous avez vu au cas où vous seriez contaminé, donc qui vous auriez pu contaminer. Il me semble que là, c'est vraiment un principe de bon sens.
Bah, écoutez, moi, j'entends la justification qui est donnée sanitaire. J'alerte juste sur le fait que, bien entendu, on nous explique, pour votre protection, eh bien, on prend des mesures qui sont, d'une façon ou d'une autre, des mesures de réorganisation autoritaire de la société.
Alors, moi, je vous trouve drôlement influencé par les réseaux sociaux. Je vous ai connu beaucoup plus raisonnable. Je suis très étonné de ce revirement, de cette inflammation.
Est-ce que vous avez
perdu Virginie, un procès d'intention. Ouais. Et alors, moi, j'ai connu plein de gens qui parlaient comme vous dans les années 30 et ça a justifié Vichy.
Vous êtes très, très enflammé. C'est bien ce que je dis.
Un auditeur nous dit.
Pour la liberté, oui. Je suis un libéral. Je suis un citoyen.
Un auditeur nous dit c'est pour créer un climat d'angoisse afin de masquer la crise sociale qui va arriver. Stéphane, lui, nous dit vous êtes crétin ou quoi ? Si tout le monde suivait les précautions, ce serait déjà fini, on serait tranquille. Le bien-non, les abiotiques qui créent la liberté, on va en avoir pendant 2 ans. Et vous évoquiez l'Allemagne, etc. Peut-être qu'il y a des pays où c'est mieux respecté qu'en France.
Oui, je crois qu'il faudrait... la vision de loin est toujours compliquée. Je crois qu'il faudrait vraiment rentrer dans le détail de ce qui se passe dans les pays. Nous, on voit ce qui se passe chez nous. On n'a pas une vision précise de la situation. Voilà,
c'est vous qui avez donné l'exemple de l'Allemagne, des Pays-Bas et autres.
Non, c'est Éric Verhaeghe.
C'est pas vous qui avez dit que... Ah, c'est Éric, pardon.
Mais non, c'est pas grave. Il est dans ma ligne de mire avec la caméra derrière.
J'ai confondu. Jean-Luc, vous vouliez réagir.
Moi, je m'étonne un peu. Enfin, souvent, dans ma jeunesse, moi, je disais, par exemple, que la dictature espagnole de Franco incitait justement ce gouvernement à faire que la population se laisse aller dans les stades de football, ce qu'on appelait l'opium du peuple. Alors, mais moi, je suis pas quand même pour le complot. Oui, effectivement, je comprends ce que disait.
Vous dites qu'il y a un but derrière ces mesures sanitaires, qui est de restreindre les libertés.
Je pense qu'il faut pas exagérer. Peut-être qu'évidemment, on essaye par ce biais-là de faire passer les choses ou de se prémunir. C'est de bonne guerre. D'ailleurs, quel que soit le gouvernement, je pense qu'il y aurait une attitude à peu près équivalente.
Si je puis rebondir pour dire qu'effectivement, là où je rejoins Éric Verhaeghe, c'est que toutes les crises qu'on a vécues ces dernières années, y compris crise terroriste, ont vu un effet cliqué par rapport à la restriction des libertés, à l'encadrement des libertés, au contrôle
systématique.
On voit aujourd'hui qu'il y a une présence beaucoup plus importante des caméras de surveillance, du contrôle, de la traçabilité des citoyens, etc. Tout ça, et on ne reviendra pas en arrière. Là maintenant, j'entendais ce matin le professeur Delprécy, on parle de liberté, allons-y. Il était sur une radio concurrente qui s'appelle en l'occurrence RTL, et il a, si je puis dire, il a baissé il a dévoilé sa pensée sur l'enjeu du masque et il est favorable, c'est la première fois qu'on l'entend dire ça, il est favorable au port du masque éternel. C'est-à-dire que lui, il pense qu'en effet, le masque restera comme une espèce d'acquis sanitaire. Voilà, au moins il le dit, au moins c'est clair, on sait contre quoi on se bat.
Il a un peu nuancé son propos en disant que oui. Tant que cette épidémie serait là, mais qu'il y en aurait d'autres derrière et que le masque allait effectivement faire partie de notre quotidien.
Il n'a pas dit par rapport à des épidémies, il a dit qu'il resterait comme un acquis sanitaire.
Mais en quoi ça restreint votre liberté? Enfin, je veux dire, en quoi ça, c'est dans ce processus avant, alors, de restreindre
d'abord,
de restreindre
j'aimerais,
la
j'aimerais, puisqu'on parle de cette question-là, qu'il y ait un débat démocratique sur le sujet, d'accord? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de débat démocratique. On est en train d'encadrer ma liberté à moi en me disant vous allez porter le masque demain partout, tout le temps, toutes circonstances. Ça, si c'est ça, moi, je quitte la France. Je voudrais terminer mon propos.
Non, mais ne dites pas chose inexacte. C'est pas ce qu'on vous demande.
À Paris, c'est ça. Voilà. Donc, sauf chez moi.
Vous êtes dans une zone très infectée.
Oui. Non mais d'accord, bon, moi je ne suis pas d'accord avec cette vision-là des choses. Je pense qu'en plus ça devient presque contre-productif, on pourrait y revenir, mais c'est une autre histoire. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on doit demain réfléchir à ça. Il faut un débat démocratique. Peut-être qu'on devrait faire comme en Asie, quand les gens sont malades, qu'ils ont une grippe, un rhume, etc. Oui, porter un masque. Peut-être que dans certaines circonstances exceptionnelles, saturation de métro, voilà. Mais si c'est demain un mode de vie permanent qu'il faut se conformer au modèle asiatique, personnellement, j'ai pas envie de vivre comme ça. Et j'aimerais bien qu'il y ait un débat par rapport à ça, et qu'on me l'impose pas en disant c'est comme ça, circuler, il y a rien à voir.
Moi, je voudrais poser une question.
Terminer pour dire que si on continue comme ça, on va peut-être pas mourir du Covid, ou pas grand monde va mourir du Covid, mais on va mourir de faim. Parce que au train où on est en train d'assister au crash de l'économie, c'était comme un accident de voiture au ralenti, et on ne voit pas ce qui va se passer. Si on continue comme ça, mais dans 6 mois, on sera pas mort du Covid, mais on va plus rien faire.
Mais donc, quel est l'intérêt du gouvernement de mettre l'économie par terre pour rien ?
C'est ce qu'a dit Éric Vérac, c'est qu'en fait, ils sont partagés entre deux stratégies, sauf que ils ont peur qu'on leur reproche demain et qu'on leur fasse un procès, voire qu'on les emmène au tribunal. Donc, ils prennent beaucoup de mesures. Malheureusement, ça va se payer extrêmement cher.
Je voudrais poser une question à Éric, malgré le fait qu'il a été très peu aimable à mon endroit. Moi, je vais rester très aimable avec lui, mais je voulais lui demander.
Et réciproquement.
Je voulais vous demander. Est-ce que vous croyez pas que l'usage quotidien que vous faites de votre ordinateur, de votre téléphone, de votre carte bleue, de tout ce dont vous vous servez toute la journée, de votre GPS, tout ça fait que vous êtes déjà extrêmement fiché, extrêmement surveillé. Alors, jetez tous vos objets, continuez à écrire avec un crayon, ne téléphonez plus, ne vous servez plus de votre carte bleue. Là, peut-être vous serez un peu isolé, mais vous êtes déjà l'objet de multiples sources d'informations quotidiennes.
Vous savez, hier, on a fait une émission.
C'est pas une question que vous me posez, c'est...
Je veux dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez,
vous,
vous pensez que vous vivez de façon très libre, ou vous savez que vous êtes déjà extrêmement fiché dans extrêmement de très nombreux domaines de la vie quotidienne ?
Ah, je sais que depuis 2015, en plus, dans la foulée de l'attentat contre Charlie Hebdo, dans les 3 semaines qui ont suivi l'attentat de Charlie Hebdo, en effet, le gouvernement a fait adopter une loi qui autorise en substance la police à fouiller dans n'importe quel ordinateur sans en référer à un juge. Donc ça, et ordinateur, téléphone portable. Ça n'a suscité à l'époque, en effet, que très peu de récriminations, puisque c'était pour éviter un nouvel attentat.
Pardonnez-moi, mon cher Éric, ce n'était pas du tout ma question. Moi, je vous parlais de l'usage banal,
mais
quotidien.
Oui, mais c'est ma réponse.
Soyez gentil de répondre à la question que je vous pose, ou alors vous dites ce que vous voulez, mais ce n'était pas ma question.
Peut-être que vous devriez écouter ce que je dis.
Non, mais
je sais que je suis espionné depuis 2015.
Mais pas que depuis 2015.
Pas que depuis 2015. C'est pour ça que vous vous cachez, cher Éric.
Pas depuis 2015.
Ça n'a rien à voir, depuis des
années. Ce forcément l'État, ce sont les GAFA. Ce sont
que ce soit 2015 ou autre.
Mais depuis plus longtemps.
Mais jusqu'ici, on ne m'obligeait pas, d'abord, j'avais encore un peu le droit d'utiliser de l'argent liquide pour faire des dépenses. On l'aura bientôt plus, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus aller prendre un café sans avoir un traçage électronique de « Ah, il est allé dans tel café tel jour, avec qui était-il ? » On va reprendre la bande vidéo. Jusqu'ici, on pouvait le faire. Maintenant, on ne pourra plus le faire.
C'est-à-dire que quoi, on va vers la fin de l'argent liquide, c'est ça ?
On est en train de supprimer en France l'argent liquide.
Non, là, il parle de la fidélité.
Et toute opération financière sera tracée.
Elle l'est déjà. Depuis des années, elle est tracée.
Quand vous allez prendre un café, ça n'est pas, personne ne sait que le billet que vous avez donné, c'est vous qui l'avez donné, et il n'y a pas une remontée traçable de l'information pour dire « Ah tiens, il est allé prendre un café à tel endroit ». La suppression complète du cash au nom du coronavirus, au nom de le billet transmet le virus.
Vous pouvez aller chercher de l'argent à votre tirette de carte bleue, de l'argent liquide.
Eh bien, je vous assure, Virginie, que c'est limité à 300 euros.
Bah déjà, vous pouvez aller prendre des petits cafés avec 300 euros.
C'est 300 euros en liquide.
Toutes les semaines. 300 euros toutes les semaines, ça fait 1200 euros par mois. Vous pouvez en faire des choses en liquide.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Steve, qui attend depuis un petit moment pour s'exprimer. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on n'aura pas vraiment le temps d'aborder notre autre sujet. On a Steve en ligne avec nous. Bonjour Steve. Est-ce que Steve est là ? On a perdu Steve. Ah bon, c'est dommage qu'on l'ait perdu parce qu'on avait annoncé qu'on l'aurait. Donc c'est dommage qu'on ait perdu Steve. Je sais pas, on continue, vous voulez qu'on continue à parler ? Moi, je vous conseille la lecture d'un livre qui s'appelle Le syndrome de la dictature. C'est le romancier égyptien Alaa El Aswany. J'ai lu ça cet été, c'est paru chez Actes Sud et c'est absolument passionnant parce qu'il exprime exactement les ferments de ce qu'est la dictature, comment dans chaque pays où il y a eu des dictatures, cette dictature est venue, et ce que c'est qu'une dictature. Donc quand on emploie le mot dictature, je trouve qu'on en est un peu loin, mais peut-être suis-je complètement...
Comme le mot fasciste, souvent.
Oui, comme le mot fasciste et dictature. Lisez ce livre, Le syndrome de la dictature. Vous allez voir que ce n'est pas exactement la même chose. Steve est revenu. Bonjour Steve.
Oui, bonjour.
Bonjour.
J'arrive dans un bon débat. Donc, j'ai vu qu'il y avait deux contre deux.
Et vous, vous êtes où alors ?
Bien
alors,
vu.
Je vais me mettre du côté des garçons, même si j'ai rien contre les filles, absolument. En fait, ce que je vois de mes petits yeux, c'est une peur. Et en fait, les gens font des séparations entre eux naturellement par rapport à ce qui se passe, par rapport aux masques, par rapport au traitement, et je trouve que c'est dommage dans un pays comme l'on est de vivre et de subir ça pour nous et pour, surtout pour les enfants. Je trouve qu'il y a une atteinte qui est très grosse envers les enfants, notamment au niveau de l'école. Un enfant qui est suspicion de Covid va être écarté de l'école, va attendre de faire des tests. Pendant ce temps, ben, d'autres enfants et d'autres parents vont les regarder là, avec des yeux comme si c'était paria. Et je trouve ça très triste. Et également, ce que je trouve encore plus dommageable, c'est qu'il n'y a qu'un courant de pensée. C'est-à-dire que le gouvernement va donner une directive et ne va pas forcément écouter ce qui se passe à côté. Et il y a beaucoup de personnes à côté qui pensent, comme nous les garçons aujourd'hui. et c'est ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on n'écoute pas le reste. C'est qu'il y a des scientifiques, mais pas que M. Raoult, qui disent que le traitement hydroxychloroquine fonctionne, parce que c'est prouvé dans beaucoup de pays.
Pas vraiment.
Et encore une contradiction, on peut chez généraliste se faire prescrire l'hydroxychloroquine, mais on ne peut pas le retirer en pharmacie parce qu'on n'est pas, on n'a pas un traitement de longue durée. Et ça, je trouve très grave qu'on ne puisse pas avoir la liberté de se soigner, en fait. C'est ça qui est...
Alors, Alex, merci de votre appel, Steve.
Avec plaisir.
Ah mais moi je suis bien d'accord. Le fait qu'on ait interdit aux médecins la faculté de faire le choix de la thérapie et du soin à donner à un patient, en disant au prétexte que peut-être qu'il y avait quelques cas, quelques effets indésirables d'un médicament, en l'occurrence hydroxychloroquine, et qu'on ait retiré ce droit aux médecins, ce pouvoir aux médecins, pour moi c'est une folie. Il faut laisser aux médecins individuels qui connaissent individuellement leurs patients le choix de soigner. Voilà, l'approche de Raoult, je le rappelle, elle c'était de soigner très vite, très tôt pour casser la charge virale. Voilà, et lui disait mon petit cocktail en bithérapie, ça fonctionne. C'est peut-être pas le seul, mais ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne dans certains cas. Peut-être
non, ce
pas
qu'on
dans
lui a reproché, c'est de ne jamais avoir produit d'études.
Moi, ce que je reproche au système, c'est justement qu'aucune étude en France n'a été faite pour justement montrer en double aveugle.
Ça a été fait à un niveau international.
Non,
il y a une collaboration internationale.
Mais qu'est-ce que ça change que
ce soit fait en France ?
Non, ça change qu'on aurait dû reproduire exactement le protocole de Raoult, de Derek Raoult.
Mais pourquoi il ne l'a pas fait ?
Mais lui, il a décidé. Lui, il a décidé que par rapport à une situation de crise, il soignait tout le monde, il ne faisait pas d'OTA. Voilà. Ça, c'est son choix. On aurait très bien pu avoir
depuis,
en France.
Depuis.
Mais en France, personne. C'est
on
quand même ballot.
On a perdu 6 mois avec
Pardon,
cette affaire.
Mais c'est quand même ballot. Je voudrais juste terminer ma phrase. En France, aucune organisation publique, ni à Paris, ni en province, en région, n'a décidé de faire la même chose que le professeur Raoult, en disant OK, mais nous, on va faire d'OTA et on démarre très tôt. Vous avez des symptômes ? OK. À un tas, on fait du placebo et à un autre tas de patients, on donne la posologie Didier Raoult.
Mais pourquoi vous voulez que ce soit les autres qui le fassent et pas lui ?
Écoutez, lui, il a fait
avant
un choix, il l'a assumé. Mais pourquoi est-ce que d'autres ne l'ont pas fait ?
Il faut le vérifier.
Le crime de l'autorité publique, c'est de ne pas...
C'est lui qui était à la tête de l'IEHU.
Lui, il dit, j'ai une solution, prenez-la. Bah, et les autres disent, non, votre solution n'est pas, parce que vous ne l'avez pas bien mise en œuvre. Et pourquoi on ne la teste pas ? Lui,
il présente ses résultats. Mais parce qu'il n'y croit pas. C'est à vous de prouver que ce que vous faites est bon.
Mais comment ça ? Mais ça, c'est votre point de vue.
Mais non, c'est le point de vue de la communauté médicale.
C'est votre point de vue, Virginie. C'est votre point de vue.
Non, allez, je voudrais quand même qu'on dise quelques mots les maires Europe Écologie Les Verts d'une manière générale et plus particulièrement le maire Europe Écologie de Lyon, Grégory Doucet, qui juge que le Tour de France est machiste et polluant. Il regrette qu'il n'y ait pas de version féminine de la Grande Boucle. Il demande à ce qu'on réfléchisse à l'empreinte écologique. Vous avez le maire, alors je ne sais pas si on a vérifié cette information, mais c'est le maire de Grenoble cette fois-ci, c'est le maire de Lyon également. Toujours, qui refuse de se rendre à la traditionnelle cérémonie de vœux des échevins à la basilique de Fourvière au nom de la laïcité. En revanche, demain, il va poser la première pierre de la grande mosquée de Gerland. Voilà. Donc, un mot quand même sur ces maires écolos qui se démarquent, qui affirment leur position. Celui de Grenoble qui dit aussi circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas besoin de policiers ni de sécurité.
Moi, je suis malheureusement content d'avoir quitté Europe Écologie Les Verts quand je vois ça. C'est malheureusement parce qu'ils font des choses bien, mais franchement, là, on est c'est l'ayatollah qui décide. Alors. On va pas poser la première pierre là, mais on va la poser Non, mais c'est n'importe quoi. Il y a des choses qui sont justes, mais il y a des choses qui sont complètement arbitraires. Ça, je ne peux pas partager ça. Non, je ne comprends pas.
Alors, Éric Vérag.
Oui, enfin, moi, je pense que Europe Écologie Les Verts, c'est deux choses fondamentalement. D'abord, un mouvement très rigoriste moralement. Et on voit bien que tout est culpabilisé, tout ce qui ressemble à une fête populaire est culpabilisé et stigmatisé. Et il y a, me semble-t-il, très profondément chez Europe Écologie Les Verts, un mépris social pour la culture du Gaulois réfractaire. C'est-à-dire que le Tour de France, ben oui, on sait que ça touche une population qui n'est pas celle qui fait du vélo dans les rues de Lyon, c'est un autre vélo, et c'est une autre conception du vélo. Et je pense qu'on va très vite s'apercevoir qu'en réalité, les maires écologistes sont porteurs d'une réaction bourgeoise face à tout ce qui était la mixité sociale dans les villes. On va expliquer aux gens qu'ils ne doivent plus quitter leur banlieue parce que ça pollue, qu'on leur interdit les fêtes sportives populaires, collectives, parce que c'est pas bien et ça pollue et ça rend malade. Et petit à petit, tout ce qui est la culture populaire française est en train d'être cloué au pilori par Europe Écologie Les Verts.
Oui.
Moi, je voulais simplement faire une observation. Il me semble que ces maires dont vous dites qu'ils sont Europe Écologie Les Verts, ils sont souvent portés par des coalitions extrêmement diverses avec des forces politiques qui ne sont pas que Europe Écologie Les Verts. Je pense à la maire de Marseille, sur sa liste, et d'ailleurs la maire de Marseille n'appartenait plus à Europe Écologie Les Verts lorsqu'elle s'est présentée au premier tour, mais sur sa liste, il y avait des gens de la France Insoumise, il y avait des anciens du Parti Communiste, du Parti Socialiste. Il y a là-dedans tout un tas de gens qui sont bien plus radicaux que Europe Écologie Les Verts. Et c'est souvent ça. Et c'est souvent ça leur difficulté, c'est qu'ils sont prisonniers de leur coalition.
Et elle a fait une conférence de presse avec Martine Vassal, qui est complètement de bord et qui est un petit peu rattrapée par des affaires, en présence de Didier Raoult.
Exactement.
Et donc il y a des choses assez incohérentes, enfin a priori.
Oui, en tout cas, ça révèle qu'on a vraiment affaire à une nouvelle génération d'élus qui sont très très légers sur le plan, on va dire, de la construction politique, de la pensée politique. On est dans l'espèce de
dogmatisme.
Oui, mais mélangé avec de la démagogie, du populisme, voilà, on est dans l'air du temps, on balance des trucs, des mots dont on ne mesure pas la portée. Dire du Tour de France qu'il est macho et qu'il est polluant, oui, on peut, dans ces cas-là, on n'a qu'à faire un Tour de France mixte, on peut être des hommes, des femmes. On n'a qu'à faire toutes les compétitions sportives, on mélange tout le monde. On n'a qu'à nier la réalité qu'il y a quand même des différences entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que physiques. Ouais. Voilà, on n'a qu'à dire pourquoi les forces spéciales dans les armées ne sont pas composées à 50% d'hommes et de femmes. Il y a des réalités qui font que c'est comme ça. Voilà, donc que le soit macho, c'est un sport. Voilà, on peut faire un tour féminin, mais pourquoi pas. Et je crois qu'ailleurs, il y en a déjà
qui existent. Oui,
polluant, bien sûr que c'est polluant. Il y a des voitures, il y a des caravanes, mais enfin, là aussi, dans ces cas-là, si au nom de la pollution, on arrête tout, arrêtons tout, effectivement. Il y a quelque chose qui n'est pas pragmatique, sauf que ça entretient une espèce encore de courant de remise en cause de tout. Et franchement, déjà que le monde a perdu toute forme d'insouciance, que ces gens-là nous rajoutent du stress en nous faisant culpabiliser de nos rares petits bouts de plaisir qui restent, ils mériteraient effectivement d'aller faire autre chose.
Surtout, ils disent beaucoup de bêtises.
Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve demain pour d'autres infos et dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous.